Bon, c'est clair qu'il y a une nette augmentation de la précarité dans les professions d'enseignement supérieur et de recherche, et en particulier dans les laboratoires. Alors, bon, y a ça d'une part, peut-être que j'y reviendrai ensuite. Ce que je veux dire aussi, c'est que puisque vous intéressez plus spécifiquement à la souffrance au travail, j'ai rencontré des cas de souffrance au travail, et en fait, bon, est-ce que c'était lié à la précarité? Pas nécessairement. En fait, souvent, c'était, j'ai deux cas là qui m'étaient très proches, qui concernaient des personnels techniques. Donc, il y avait une personne, alors la spécificité à l'université, donc, il s'agit de l'université Paris-12, donc c'est une université parisienne, mais périphérique. Donc, bien moins doté que Créteil. Et le personnel technique dans nos laboratoires, évidemment, au fur et à mesure des années, on en a eu de moins en moins. Et j'étais dans UNR-CNRS, qui est devenue ex-UNR. Je ne sais pas si vous avez suivi ces changements structuraux. Donc, là aussi, c'était... C'est une histoire compliquée, si vous voulez, on reviendra là-dessus. Mais cette personne était technicienne qui devait partager son temps entre encadrer des travaux pratiques, préparer du matériel pour les travaux pratiques, et puis travailler dans notre laboratoire de recherche. Donc, elle s'est retrouvée tiraillée entre les deux occupations, et dans notre laboratoire, on ne la voyait plus. Alors, parce qu'elle était très occupée à préparer des cours ailleurs, et quand on est allé voir le professeur qui encadrait ses autres travaux pratiques, elle nous dit ben non, on ne la voit pas beaucoup, je ne sais pas ce qu'elle fait, elle va visiter un petit ami ou je ne sais quoi. Donc des rumeurs qui l'ont complètement déstabilisé et rendu malade, quoi, parce que ce professeur ne se rendait pas compte de la charge qu'elle avait du point de vue de préparation de l'ETP et qu'elle ne pouvait effectivement pas remplir ces deux charges à la fois. Et c'est très difficile pour les personnes qui sont comme ça de faire quelque chose. Il se trouve que de temps avant, j'avais vu le documentaire sur la souffrance au travail de Jean-Michel Carré, où on voit interviewer justement des psychologues, des médecins, etc. Et je lui avais dit à cette femme de notre laboratoire, si ça ne va pas, tu ne peux plus dormir, etc., va consulter le médecin du travail. C'est la première chose à faire. Bon, tu vas voir que tu n'es probablement pas la seule dans ce cas. Des choses de genre. Mais ça, elle ne l'a jamais fait. Donc, un autre cas, ça a été la personne chez nous qui s'occupe de l'animalerie. C'était pareil. C'est quelqu'un qui a été sur des contrats faible durée pendant plusieurs années. Finalement, elle a eu un CDI. Et c'est le genre de personne qui est très peu considérée dans les laboratoires. Et ça crée une grande souffrance parce que c'est des gens qui font essayent de faire de leur mieux pour faire tourner une animalerie, c'est pas facile. La personne, elle est seule à le faire. Elle se partage avec des s'occuper de la laverie chez lui. Et quand quelque chose ne va pas bien, le chercheur arrive, etc., sans aucune considération. Donc ça, je ne sais pas si je me fais comprendre.
C'est des gens qui sont très clairement.
Oui, c'est des gens qui sont tout en bas de l'échelle. Et en plus, ils ont du mal à s'exprimer. Donc, l'animalière, entre autres, elle est d'origine vietnamienne, donc quelquefois, elle a du mal à. Bien qu'elle comprenne très bien, elle écoute très bien le français et tout, mais quelquefois, surtout quand elle est élue, elle a beaucoup de mal à s'exprimer. Donc, ça, c'est des cas de souffrance au travail que j'ai rencontrés. Il y a d'autres cas aussi. Mais bon, le genre de souffrance aussi qu'on rencontre dans le laboratoire, alors que je pense qu'on parle très peu de ça hein, dans un laboratoire en tant que chercheur. On se concentre sur les problèmes de recherche, sur les expériences, comment faire que tout ça fonctionne bien, sur les thésards pour qu'ils arrivent à avoir leur thèse, à avoir leur financement. Donc c'est clair que ces dernières années, c'est devenu de plus en plus difficile, d'ailleurs, d'arriver à financer les études en thèse. Je pense au cas d'une étudiante d'origine, en fait, qui est née en France, elle est française, mais sa famille avait migré de Chine et était dans la restauration pour plusieurs enfants. Et ces gens-là, ils avaient déménagé à Créteil en face de l'université pour que leurs enfants fassent une étude. Et elle, donc, on l'a vu arriver en stage. Master, DEA, et au niveau de DEA, on trouvait que dans le laboratoire, pour les expériences, elle se déroulait très bien. On l'a trouvé très bien. Et le fait est qu'elle n'a pas réussi à avoir une bourse de thèse. Pour elle, c'était la catastrophe, parce qu'elle disait, bon, bah, si je n'ai pas fait de bourse, c'est que j'ai plus qu'à aller me faire vendeuse à Auchan, etc. Donc, il se trouve que moi, j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis, j'avais encore des contacts aux États-Unis, et je lui ai dit, mais si tu veux continuer, tu n'es pas obligé de t'approcher à Créteil, on peut essayer de te donner un contact, et tu peux peut-être continuer comme ça. Et donc, cette jeune femme que Paris 12 a trouvée trop nulle pour lui donner une bourse, finalement est allée à Stanford, où elle est depuis 8 ans, elle a passé une thèse, donc finalement elle est revenue chez nous pour la soutenir, donc brillamment, etc. Voilà. Ça, c'est quelqu'un. Ah non, parce que, alors, attendez. D'une part, je veux dire que quand même, quand elle n'a pas eu sa bourse, elle était effondrée en larmes, etc. Donc c'est quand même une souffrance qu'on ne peut pas ignorer. Et il se trouve que, bon, d'une certaine façon, elle a eu de la chance que je sois là et que je lui donne une porte de sortie, mais c'est pas que ça se produit pas toujours. Et bon, j'avais un contact à pleine forme, voilà. Et là-bas, elle a eu un vrai poste, où elle était, je sais pas, un poste de chercheur,
Je voulais, pour revenir un peu dans la dynamique du bas, là, tu nous as éclairé sur cet aspect-là. Par exemple, tu pourrais nous expliquer comment est organisé ton laboratoire? Par exemple,
oui.
Tu dis, il y a 50 précaires. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, ton laboratoire?
Oui, alors, parmi, voilà. Effectivement, c'est ce que j'avais vu, prévu de vous dire initialement. Donc, le laboratoire, moi, j'ai fait différentes expériences, parce qu'en fait, j'ai fait ma thèse aux États-Unis, et ensuite, je suis revenue en France avec un coach de l'NRS. Et, donc, en France, bon, c'est clair, le laboratoire, il y a un directeur du laboratoire. Et ce que j'ai constaté, enfin, par rapport à ma propre expérience, c'est que quand même, en France, on a des groupes dans la recherche qui sont bien plus grands qu'aux États-Unis. Moi, j'étais dans un institut aux États-Unis où j'ai fait ma recherche, en fait, qui était financé par le fonds de la Roche, et qui était dans le New Jersey, ben, qui était copié sur le système où fonctionne le NIH. Et donc, il y avait des groupes de chercheurs, mais les laboratoires étaient petits. Le directeur de laboratoire, c'était moins d'une dizaine de personnes. Quand je suis revenue en France, c'était pour aller à Lyon chez le professeur Duré. Donc là, c'était un truc quand même assez énorme.
Et,
c'était plutôt, une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Donc, avec une organisation très pyramidale. Et ça, je l'ai vu toujours. Après, j'ai pas mal bougé, c'est ce que le CNRS m'a reproché. Mais, toujours la même thématique, mais
C'est ce que tu veux dire par là. C'est-à-dire que tu veux dire que pour le même sujet.
Voilà, avec un poste au CNRS, le sujet vous appartient. Sauf quand je suis revenue des États-Unis, mon mari a pas fait le travail dans la même ville que moi, mais il a pris à Paris dans la nuit. Donc moi, je suis revenue sur Paris et au Collège de France. D'abord avec Paul de Doiron, puis ensuite avec François Bon. Et donc, finalement, en tant que chercheur CNRS, on avait une assez grande liberté pour gérer ces thèmes de recherche. En fait, on doit évaluer tout le temps, on doit faire des rapports tout le temps. Pour établir des collaborations, enfin, tout ça, on est quand même très libre. C'est quelque chose qu'on nous en dit pas mal, je pense, à l'étranger. Alors, donc ça m'a beaucoup frappé en réfléchissant à tout ça que tous les laboratoires français que j'ai fréquentés, et la même chose à Créteil et Paris-Doubs, c'est vraiment des équipes qui sont grosses. Et d'ailleurs, actuellement, en plus, la politique encourage encore les regroupements. Et donc, on a un directeur de laboratoire, puis des directeurs de sous-groupes, et voilà.
Et à l'intérieur, par exemple, de cet laboratoire que vous décrivez, combien de personnes sont précaires, quelle est leur utilisation,
comment ça marche? Voilà. Donc, ce que j'ai observé, donc, il y a les directeurs de laboratoire, enfin, du groupe, les trois professeurs, les petits groupes, et puis après, il y a des chercheurs, des techniciens, des stagiaires. Bon, les stagiaires, c'est ceux qui vont préparer les thèses, par exemple. Et au cours de ces quelques d'années, ce que j'ai pu observer, c'est justement la diminution constante d'abord des postes statutaires. Alors, diminution du personnel technique. Hein, au fur et à mesure des années, le chercheur qui est statutaire se met à faire toutes sortes de travaux techniques parce qu'il n'y a pas de technicien. Même arrive à remplacer les secrétaires. Donc moi, ces derniers temps, si j'allais à un colloque, c'était moi qui faisais l'agence de voyage, qui m'occupait de tout. Donc il y a quand même eu. Oui, d'ailleurs, j'ai trouvé des je ne sais pas, je suis allée. Je dois avoir ça dans mon sac, je suis allée consulter des documents du CNRS qui montrent bien ça. Cette, disons que, je pense, dans les années 70, il y avait une assez forte proportion de 80 une assez forte proportion de techniciens pour chercheurs et puis ça s'est mis à diminuer beaucoup, c'est-à-dire tout à coup les chercheurs n'avaient plus d'aide technique. Et bon, maintenant, actuellement, apparemment, ils veulent inverser la tendance. C'est-à-dire qu'actuellement, au CNRS, il y a eu diminution de recrutement de postes de chercheurs. Donc, je crois, en 77, ils recrutaient 400 chercheurs. En 2007, en 2009, c'était 300 postes qui étaient de recrutement au milieu de 400. Et apparemment, ils veulent. Donc, on ne renouvelle pas les chercheurs qui partent à la retraite. On n'en recrute pas non plus, mais on va recruter des techniciens. D'autre part, les stagiaires. Alors, ce que j'ai observé, disons, dans la dix dernières années, avant, quelqu'un venait pour faire une thèse. Alors, trouver un financement, je ne suis pas sûre que c'était toujours si facile que ça. Enfin, quelqu'un qui voulait faire une thèse arrivait à obtenir une bourse de thèse. Et petit à petit, on a vu arriver des stagiaires de courte durée. C'est-à-dire des stagiaires avant la thèse, en licence, en maîtrise, etc. Faire des petites expériences. C'est-à-dire que quand même, en recherche fondamentale, on a des projets en général qui sont à long terme. Petit à petit, on est passé au fait que les gens qui font vraiment les expériences, ne viennent que pour quelques mois de laboratoire.